Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre 3, suite. Ces problèmes, est-ce l'expérience mystique qui les résout? On voit bien les objections qu'elle soulève. Nous avons écarté celles qui consistent à faire de tout mystique un déséquilibré, de tout mysticisme un état pathologique. Les grands mystiques, qui sont les seuls dont nous nous occupions, ont généralement été des hommes ou des femmes d'action, d'un bon sens supérieur. Peu importe qu'ils aient eu pour imitateurs des déséquilibrés, ou que tel d'entre eux se soit ressenti à certains moments d'une tension extrême et prolongée de l'intelligence et de la volonté. Beaucoup d'hommes de génie ont été dans le même cas. Mais il y a une autre série d'objections dont il est impossible de ne pas tenir compte. On allègue en effet que l'expérience de ces grands mystiques est individuelle et exceptionnelle, qu'elle ne peut pas être contrôlée par le commun des hommes, qu'elle n'est pas comparable par conséquent à l'expérience scientifique et ne saurait résoudre des problèmes. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point. D'abord, il s'en faut qu'une expérience scientifique, ou plus généralement une observation enregistrée par la science, soit toujours susceptible de répétition ou de contrôle. Au temps où l'Afrique centrale était terra incognita, la géographie s'en remettait au récit d'un explorateur unique si celui-ci offrait des garanties suffisantes d'honnêteté et de compétence. Le tracé des voyages de Livingstone a longtemps figuré sur les cartes de nos atlas. On répondra que la vérification était possible en droit, sinon en fait, que d'autres voyageurs étaient libres d'y aller voir, que d'ailleurs, la carte dressée sur les indications d'un voyageur unique était provisoire et attendait que des explorations ultérieures la rendissent définitive. Je l'accorde. Mais le mystique, lui aussi, a fait un voyage que d'autres peuvent refaire en droit, sinon en fait. Et ceux qui en sont effectivement capables sont au moins aussi nombreux que ceux qui auraient l'audace et l'énergie d'un Stanley allant retrouver Livingstone. Ce n'est pas assez dire. À côté des âmes qui suivraient jusqu'au bout la voie mystique, il en est beaucoup qui effectueraient tout au moins une partie du trajet. Combien y ont fait quelques pas, soit par un effort de leur volonté, soit par une disposition de leur nature. William James déclarait n'avoir jamais passé par des états mystiques, mais il ajoutait que si l'on entendait parler par un homme qui les connut d'expérience, quelque chose en lui faisait écho. La plupart d'entre nous sont probablement dans le même cas. Il ne sert à rien de leur opposer les protestations indignées de ceux qui ne voient dans le mysticisme que charlatanisme ou folie. Certains, sans aucun doute, sont totalement fermés à l'expérience mystique, incapables d'en rien éprouver, d'en rien imaginer. Mais on rencontre également des gens pour lesquels la musique n'est qu'un bruit, et tel d'entre eux s'exprime avec la même colère, sur le même ton de rancune personnelle, au sujet des musiciens. Personne ne tirera de là un argument contre la musique. Laissons donc de côté ces négations, et voyons si l'examen le plus superficiel de l'expérience mystique ne créerait pas déjà une présomption en faveur de sa validité. Il faut d'abord remarquer l'accord des mystiques entre eux. Le fait est frappant chez les mystiques chrétiens. Pour atteindre la déification définitive, ils passent par une série d'états. Ces états peuvent varier de mystique à mystique, mais ils se ressemblent beaucoup. En tout cas, la route parcourue est la même, à supposer que les stations la jalonnent différemment. Et c'est en tout cas le même point d'aboutissement. Dans les descriptions de l'état définitif, on retrouve les mêmes expressions, les mêmes images, les mêmes comparaisons, alors que les auteurs ne se sont généralement pas connus les uns les autres. On réplique qu'ils se sont connus quelquefois, et que d'ailleurs il y a une tradition mystique dont tous les mystiques ont pu subir l'influence. Nous l'accordons. Mais il faut remarquer que les grands mystiques se soucient peu de cette tradition. Chacun d'eux a son originalité, qui n'est pas voulue, qui n'a pas été désirée, mais à laquelle on sent bien qu'il tient essentiellement. Elle signifie qu'il est l'objet d'une faveur exceptionnelle, encore qu'imméritée. Dira-t-on que la communauté de religion suffit à expliquer la ressemblance, que tous les mystiques chrétiens se sont nourris de l'Évangile, que tous ont reçu le même enseignement théologique. Ce serait oublier que si les ressemblances entre les visions s'expliquent en effet par la communauté de religion, ces visions tiennent peu de place dans la vie des grands mystiques. Elles sont vite dépassées et n'ont à leurs yeux qu'une valeur symbolique. Pour ce qui est de l'enseignement théologique en général, il semble bien l'accepter avec une docilité absolue, et en particulier obéir à leurs confesseurs. Mais, comme on l'a dit finement, ils n'obéissent qu'à eux-mêmes, et un surinstinct les mène à l'homme qui les dirigera précisément dans la voie où ils veulent marcher. S'il lui arrivait de s'en écarter, nos mystiques n'hésiteraient pas à secouer son autorité et, fort de leur relation directe avec la divinité, à se prévaloir d'une liberté supérieure. Il serait en effet intéressant d'étudier ici, de près, les rapports entre dirigeants et dirigés. On trouverait que celui des deux qui a accepté avec humilité d'être dirigé est plus d'une fois devenu, avec non moins d'humilité, le directeur. Mais là n'est pas pour nous le point important. Nous voulons seulement dire que, si les ressemblances extérieures entre mystiques chrétiens peuvent tenir à une communauté de tradition et d'enseignement, leur accord profond est signe d'une identité d'intuition qui s'expliquerait le plus simplement par l'existence réelle de l'être avec lequel ils se croient en communication. Que sera-ce si l'on considère que les autres mysticismes, anciens ou modernes, vont plus ou moins loin, s'arrêtent ici ou là, mais marquent tous la même direction? Nous reconnaissons pourtant que l'expérience mystique laissée à elle-même ne peut apporter au philosophe la certitude définitive. Elle ne serait tout à fait convaincante que si celui-ci était arrivé par une autre voie, telle que l'expérience sensible et le raisonnement fondé sur elle, envisager comme vraisemblable l'existence d'une expérience privilégiée par laquelle l'homme entrerait en communication avec un principe transcendant. La rencontre chez les mystiques de cette expérience telle qu'on l'attendait permettrait alors d'ajouter aux résultats acquis, tandis que ces résultats acquis feraient rejaillir sur l'expérience mystique quelque chose de leur propre objectivité. Il n'y a pas d'autre source de connaissance que l'expérience. Mais comme la notation intellectuelle du fait dépasse nécessairement le fait brut, il s'en faut que toutes les expériences soient également concluantes et autorisent la même certitude. Beaucoup nous conduisent à des conclusions simplement probables. Toutefois, les probabilités peuvent s'additionner et l'addition donner un résultat qui équivaille pratiquement à la certitude. Nous parlions jadis de ces lignes de fait dont chacune ne fournit que la direction de la vérité parce qu'elle ne va pas assez loin. En prolongeant deux d'entre elles jusqu'au point où elles se coupent, on arrivera pourtant à la vérité même. L'arpenteur mesure la distance d'un point inaccessible en le visant tour à tour de deux points auquel il a accès. Nous estimons que cette méthode de recoupement est la seule qui puisse faire avancer définitivement la métaphysique. Par elle, s'établira une collaboration entre philosophes. La métaphysique, comme la science, progressera par accumulation graduelle de résultats acquis, au lieu d'être un système complet, à prendre ou à laisser, toujours contesté, toujours à recommencer. Or, il se trouve précisément que l'approfondissement d'un certain ordre de problèmes, tout différent du problème religieux, nous a conduit à des conclusions qui rendaient probable l'existence d'une expérience singulière, privilégiée, telle que l'expérience mystique. Et d'autre part, l'expérience mystique, étudiée pour elle-même, nous fournit des indications capables de s'ajouter aux enseignements obtenus dans un tout autre domaine par une tout autre méthode. Il y a donc bien ici renforcement et complément réciproque. Commençons par le premier point. C'est en suivant d'aussi près que possible les données de la biologie que nous étions arrivés à la conception d'un élan vital et d'une évolution créatrice. Nous le montrions au début du précédent chapitre, cette conception n'avait rien de commun avec les hypothèses sur lesquelles se construisent les métaphysiques. C'était une condensation de faits, un résumé de résumés. Maintenant, d'où venait l'élan et quel en était le principe? S'il se suffisait à lui-même, qu'était-il en lui-même? Et quel sens fallait-il donner à l'ensemble de ces manifestations? À ces questions, les faits considérés n'apportaient aucune réponse. Mais on apercevait bien la direction d'où la réponse pourrait venir. L'énergie lancée à travers la matière nous était apparue en effet comme infraconsciente ou supraconsciente, en tout cas de même espèce que la conscience. Elle avait dû contourner bien des obstacles, se rétrécir pour passer, se partager surtout entre des lignes d'évolution divergentes. Finalement, c'est à l'extrémité des deux lignes principales que nous avons trouvé les deux modes de connaissance en lesquels elle s'était analysée pour se matérialiser, l'instinct de l'insecte et l'intelligence de l'homme. L'instinct était intuitif. L'intelligence réfléchissait et raisonnait. Il est vrai que l'intuition avait dû se dégrader pour devenir instinct. Elle s'était hypnotisée sur l'intérêt de l'espèce et ce qu'elle avait conservé de conscience avait pris la forme somnambulique. Mais de même qu'autour de l'instinct animal subsistait une frange d'intelligence, ainsi l'intelligence humaine était auréolée d'intuition. Celle-ci, chez l'homme, était restée pleinement désintéressée et consciente. Mais ce n'était qu'une lueur et qui ne se projetait pas bien loin. C'est d'elle que viendrait la lumière, si jamais devait s'éclairer l'intérieur de l'élan vital, sa signification, sa destination. Car elle était tournée vers le dedans. Et si, par une première intensification, elle nous faisait saisir la continuité de notre vie intérieure, si la plupart d'entre nous n'allaient pas plus loin, une intensification supérieure la porterait peut-être jusqu'aux racines de notre être et par là, jusqu'au principe même de la vie en général. L'âme mystique n'avait-elle pas justement ce privilège? Nous arrivions ainsi à ce que nous venons d'annoncer comme le second point. La question était d'abord de savoir si les mystiques étaient ou non de simples déséquilibrés, si le récit de leurs expériences était ou non de pure fantaisie. Mais la question était vite réglée, au moins en ce qui concerne les grands mystiques. Il s'agissait ensuite de savoir si le mysticisme n'était qu'une plus grande ardeur de la foi, forme imaginative que peut prendre dans des âmes passionnées, la religion traditionnelle. Aussi, tout en s'assimilant le plus qu'il peut de cette religion, tout en lui demandant une confirmation, tout en lui empruntant son langage, il n'avait pas un contenu original, puisé directement à la source même de la religion, indépendant de ce que la religion doit à la tradition, à la théologie, aux églises. Dans le premier cas, il resterait nécessairement à l'écart de la philosophie, car celle-ci laisse de côté la révélation qui a une date, les institutions qui l'ont transmise, la foi qu'il accepte. Elle doit s'en tenir à l'expérience et au raisonnement. Mais dans le second, il suffirait de prendre le mysticisme à l'état pur, dégager des visions, des allégories, des formules théologiques par lesquelles il s'exprime, pour en faire un auxiliaire puissant de la recherche philosophique. De ces deux conceptions des rapports qu'il entretient avec la religion, c'est la seconde qui nous a paru s'imposer. Nous devons alors voir dans quelle mesure l'expérience mystique prolonge celle qui nous a conduit à la doctrine de l'élan vital. Tout ce qu'elle fournirait d'informations à la philosophie lui serait rendu par celle-ci sous forme de confirmation. Remarquons d'abord que les mystiques laissent de côté ce que nous appelions les faux problèmes. On dira peut-être qu'il ne se pose aucun problème vrai ou faux, et l'on aura raison. Il n'en est pas moins certain qu'il nous apporte la réponse implicite à des questions qui doivent préoccuper le philosophe, et que des difficultés devant lesquelles la philosophie a eu tort de s'arrêter sont implicitement pensées par eux comme inexistantes. Nous avons montré, jadis, qu'une partie de la métaphysique gravite, consciemment ou non, autour de la question de savoir pourquoi quelque chose existe, pourquoi la matière ou pourquoi des esprits ou pourquoi Dieu plutôt que rien. Mais cette question présuppose que la réalité remplit un vide, que sous l'être il y a le néant, qu'en droit il n'y aurait rien. Qu'il faut alors expliquer pourquoi, en fait, il y a quelque chose. Et cette présupposition est illusion pure, car l'idée de néant absolu a tout juste autant de signification que celle d'un carré rond. L'absence d'une chose étant toujours la présence d'une autre que nous préférons ignorer parce qu'elle n'est pas celle qui nous intéresse ou celle que nous attendions, une suppression n'est jamais qu'une substitution, une opération à deux faces que l'on convient de ne regarder que par un côté. L'idée d'une abolition du tout est donc destructive d'elle-même, inconcevable. C'est une pseudo-idée. Un mirage de représentation. Mais pour des raisons que nous exposions jadis, l'illusion est naturelle. Elle a sa source dans les profondeurs de l'entendement. Elle suscite des questions qui sont la principale origine de l'angoisse métaphysique. Ces questions, un mystique estimera qu'elles ne se posent même pas. Illusion d'optique interne, dues à la structure de l'intelligence humaine, elles s'effacent et disparaissent à mesure qu'on s'élève au-dessus du point de vue humain. Pour des raisons analogues, le mystique ne s'inquiétera pas davantage des difficultés accumulées par la philosophie autour des attributs métaphysiques de la divinité. Il n'a que faire de déterminations qui sont des négations et qui ne peuvent s'exprimer que négativement. Il croit voir ce que Dieu est. Il n'a aucune vision de ce que Dieu n'est pas. C'est donc sur la nature de Dieu, immédiatement saisie dans ce qu'elle a de positif, je veux dire de perceptible aux yeux de l'âme, que le philosophe devra l'interroger. Cette nature, le philosophe aurait vite fait de la définir s'il voulait mettre le mysticisme en formule. Dieu est amour et il est objet d'amour. Tout l'apport du mysticisme est là. De ce double amour, le mystique n'aura jamais fini de parler. Sa description est interminable parce que la chose à décrire est inexprimable. Mais ce qu'elle dit clairement, c'est que l'amour divin n'est pas quelque chose de Dieu, c'est Dieu lui-même. À cette indication s'attachera le philosophe qui tient Dieu pour une personne et qui ne veut pourtant pas donner dans un grossier anthropomorphisme. Il pensera, par exemple, à l'enthousiasme qui peut embraser une âme, consumer ce qui s'y trouve et occuper désormais toute la place. La personne coïncide alors avec cette émotion. Jamais pourtant, elle ne fut à tel point elle-même. Elle est simplifiée, unifiée, intensifiée. Jamais non plus, elle n'a été aussi chargée de penser, s'il est vrai, comme nous le disions, qu'il y ait deux espèces d'émotions. L'une infra-intellectuelle, qui n'est qu'une agitation consécutive à une représentation, l'autre supra-intellectuelle, qui précède l'idée et qui est plus qu'idée, mais qui s'épanouirait en idée si elle voulait. Âme toute pure, se donner un corps. Quoi de plus construit? Quoi de plus savant qu'une symphonie de Beethoven? Mais tout le long de son travail d'arrangement, de réarrangement et de choix qui se poursuivait sur le plan intellectuel, le musicien remontait vers un point situé hors du plan pour y chercher l'acceptation ou le refus, la direction, l'inspiration. En ce point siégeait une indivisible émotion que l'intelligence aidait sans doute à s'expliciter en musique, mais qui était elle-même plus que musique et plus qu'intelligence. À l'opposé de l'émotion infra-intellectuelle, elle restait sous la dépendance de la volonté. Pour en référer à elle, l'artiste avait chaque fois à donner un effort, comme l'œil pour faire reparaître une étoile qui rentre aussitôt dans la nuit. Une émotion de ce genre ressemble sans doute, quoique de très loin, au sublime amour qui est pour le mystique l'essence même de Dieu. En tout cas, le philosophe devra penser à elle quand il pressera de plus en plus l'intuition mystique pour l'exprimer en termes d'intelligence. Il peut n'être pas musicien, mais il est généralement écrivain, et l'analyse de son propre état d'âme quand il compose l'aidera à comprendre comment l'amour où les mystiques voient l'essence même de la divinité peut être, en même temps qu'une personne, une puissance de création. Il se tient d'ordinaire, quand il écrit, dans la région des concepts et des mots. La société lui fournit, élaborée par ses prédécesseurs et emmagasinée dans le langage, des idées qu'il combine d'une manière nouvelle, après les avoir elles-mêmes remodelées jusqu'à un certain point pour les faire rentrer dans la combinaison. Cette méthode donnera un résultat plus ou moins satisfaisant, mais elle aboutira toujours à un résultat et dans un temps restreint. L'œuvre produite pourra d'ailleurs être originale et forte. Souvent, la pensée humaine s'en trouvera enrichie. Mais ce ne sera qu'un accroissement du revenu de l'année. L'intelligence sociale continuera à vivre sur le même fond, sur les mêmes valeurs. Maintenant, il y a une autre méthode de composition, plus ambitieuse, moins sûre, incapable de dire quand elle aboutira et même si elle aboutira. Elle consiste à remonter du plan intellectuel et social jusqu'en un point de l'âme d'où part une exigence de création. Cette exigence, l'esprit où elle siège, a pu ne la sentir pleinement qu'une fois dans sa vie. Mais elle est toujours là, émotion unique, ébranlement ou élan reçu du fond même des choses. Pour lui obéir tout à fait, il faudrait forger des mots, créer des idées, mais ce ne serait plus communiquer, ni par conséquent écrire. L'écrivain tentera pourtant de réaliser l'irréalisable. Il ira chercher l'émotion simple, forme qui voudrait créer sa matière, et se portera avec elle à la rencontre des idées déjà faites, des mots déjà existants, enfin des découpures sociales du réel. Tout le long du chemin, il la sentira s'expliciter en signes issus d'elle, je veux dire en fragments de sa propre matérialisation. Ces éléments, dont chacun est unique en son genre, comment les amener à coïncider avec des mots qui expriment déjà des choses? Il faudra violenter les mots, forcer les éléments. Encore, le succès ne sera-t-il jamais assuré? L'écrivain se demande à chaque instant s'il lui sera bien donné d'aller jusqu'au bout. De chaque réussite partielle, il rend grâce au hasard, comme un faiseur de calembours pourrait remercier des mots placés sur sa route de s'être prêté à son jeu. Mais s'il aboutit, c'est d'une pensée capable de prendre un aspect nouveau pour chaque génération nouvelle, c'est d'un capital indéfiniment productif d'intérêt et non plus d'une somme à dépenser tout de suite qu'il aura enrichi l'humanité. Telles sont les deux méthodes de composition littéraire. Elles ont beau ne pas s'exclure absolument, elles se distinguent radicalement. À la seconde, à l'image qu'elle peut donner d'une création de la matière par la forme, devra penser le philosophe pour se représenter comme énergie créatrice, l'amour ou le mystique voit l'essence même de Dieu. Cet amour a-t-il un objet? Remarquons qu'une émotion d'ordre supérieur se suffit à elle-même. Telle musique sublime exprime l'amour. Ce n'est pourtant l'amour de personne. Une autre musique sera un autre amour. Il y aura là deux atmosphères de sentiments distincts, deux parfums différents, et dans les deux cas, l'amour sera qualifié par son essence, non par son objet. Toutefois, il est difficile de concevoir un amour agissant qui ne s'adresserait à rien. Par le fait, les mystiques sont unanimes à témoigner que Dieu a besoin de nous, comme nous avons besoin de Dieu. Pourquoi aurait-il besoin de nous, sinon pour nous aimer? Telle sera bien la conclusion du philosophe qui s'attache à l'expérience mystique. La création lui apparaîtra comme une entreprise de Dieu pour créer des créateurs, pour s'adjoindre des êtres dignes de son amour. On hésiterait à l'admettre s'il ne s'agissait que des médiocres habitants du coin d'univers qui s'appelle la Terre. Mais, nous le disions jadis, il est vraisemblable que la vie anime toutes les planètes suspendues à toutes les étoiles. Elle y prend sans doute, en raison de la diversité des conditions qui lui sont faites, les formes les plus variées et les plus éloignées de ce que nous imaginons. Mais elle a partout la même essence, qui est d'accumuler graduellement de l'énergie potentielle pour la dépenser brusquement en action libre. On pourrait encore hésiter à l'admettre si l'on tenait pour accidentelle l'apparition, parmi les animaux et les plantes qui peuplent la Terre, d'un être vivant tel que l'homme, capable d'aimer et de se faire aimer. Mais nous avons montré que cette apparition, si elle n'était pas prédéterminée, ne fut pas non plus un accident. Bien qu'il y ait eu d'autres lignes d'évolution à côté de celle qui conduit à l'homme, et malgré ce qu'il y a d'incomplet dans l'homme lui-même, on peut dire, en se tenant très près de l'expérience, que c'est l'homme qui est la raison d'être de la vie sur notre planète. Enfin, il y aurait lieu d'hésiter encore si l'on croyait que l'univers est essentiellement matière brute et que la vie s'est surajoutée à la matière. Nous avons montré, au contraire, que la matière et la vie, telles que nous la définissons, sont données ensemble et solidairement. Dans ces conditions, rien n'empêche le philosophe de pousser jusqu'au bout l'idée que le mysticisme lui suggère d'un univers qui ne serait que l'aspect visible et tangible de l'amour et du besoin d'aimer, avec toutes les conséquences qu'entraîne cette émotion créatrice. Je veux dire, avec l'apparition d'êtres vivants, où cette émotion trouve son complément, et d'une infinité d'autres êtres vivants, sans lesquels ceux-ci n'auraient pas pu apparaître. Et enfin, d'une immensité de matérialité, sans laquelle la vie n'eût pas été possible. Nous dépassons ainsi, sans doute, les conclusions de l'évolution créatrice. Nous avions voulu rester aussi près que possible des faits. Nous ne disions rien qui ne pût être confirmé un jour par la biologie. En attendant cette confirmation, nous avions des résultats que la méthode philosophique, telle que nous l'entendons, nous autorisait à tenir pour vrais. Ici, nous ne sommes plus que dans le domaine du vraisemblable. Mais nous ne saurions trop répéter que la certitude philosophique comporte des degrés, qu'elle fait appel à l'intuition en même temps qu'au raisonnement, et que si l'intuition, adossée à la science, est susceptible d'être prolongée, ce ne peut être que par l'intuition mystique. De fait, les conclusions que nous venons de présenter complètent naturellement, quoique non pas nécessairement, celles de nos précédents travaux. Une énergie créatrice, qui serait amour, et qui voudrait tirer d'elle-même des êtres dignes d'être aimés, pourrait semer ainsi des mondes dont la matérialité en tant qu'opposée à la spiritualité divine exprimerait simplement la distinction entre ce qui est créé et ce qui crée, entre les notes juxtaposées de la symphonie et l'émotion indivisible qui les a laissées tomber hors d'elles. Dans chacun de ces mondes, élan vital et matière brute seraient les deux aspects complémentaires de la création. La vie, tenant de la matière qu'elle traverse, sa subdivision en êtres distincts, et les puissances qu'elle porte en elle restant confondues ensemble dans la mesure où le permet la spatialité de la matière qui les manifeste. Cette interpénétration n'a pas été possible sur notre planète. Tout porte à croire que la matière qui s'est trouvée ici complémentaire de la vie était peu faite pour en favoriser l'élan. L'impulsion originelle a donc donné des progrès évolutifs divergents au lieu de se maintenir indivisés jusqu'au bout. Même sur la ligne où l'essentiel de cette impulsion a passé, elle a fini par épuiser son effet, ou plutôt, le mouvement s'est converti, rectiligne, en mouvement circulaire. L'humanité qui est au bout de cette ligne tourne dans ce cercle. Telle était notre conclusion. Pour la prolonger autrement que par des suppositions arbitraires, nous n'aurions qu'à suivre l'indication du mystique. Le courant vital qui traverse la matière et qui en est sans doute la raison d'être, nous le prenions simplement pour donner. De l'humanité, qui est au bout de la direction principale, nous ne nous demandions pas si elle avait une autre raison d'être qu'elle-même. Cette double question, l'intuition mystique la pose en y répondant. Des êtres ont été appelés à l'existence qui était destinée à aimer et à être aimée, l'énergie créatrice devant se définir par l'amour. Distinct de Dieu, qui est cette énergie même, il ne pouvait surgir que dans un univers, et c'est pourquoi l'univers a surgi. Dans la portion d'univers qu'est notre planète, probablement dans notre système planétaire tout entier, de tels êtres, pour se produire, ont dû constituer une espèce, et cette espèce en nécessita une foule d'autres qui en furent la préparation, le soutien ou le déchet. Ailleurs, il n'y a peut-être que des individus radicalement distincts, à supposer qu'ils soient encore multiples, encore mortels. Peut-être aussi ont-ils été réalisés alors, d'un seul coup et pleinement. Sur la Terre, en tout cas, l'espèce, qui est la raison d'être de toutes les autres, n'est que partiellement elle-même. Elle ne penserait même pas à le devenir tout à fait si certains de ses représentants n'avaient réussi, par un effort individuel qui s'est surajouté au travail général de la vie, à briser la résistance qu'opposait l'instrument, à triompher de la matérialité, enfin à retrouver Dieu. Ces hommes sont les mystiques. Ils ont ouvert une voie où d'autres hommes pourront marcher. Ils ont, par là même, indiqué aux philosophes d'où venait et où allait la vie. On ne se lasse pas de répéter que l'homme est bien peu de choses sur la terre et la terre dans l'univers. Pourtant, même par son corps, l'homme est loin de n'occuper que la place minime qu'on lui octroie d'ordinaire et dont se contentait Pascal lui-même quand il réduisait le roseau pensant à n'être matériellement qu'un roseau. Car si notre corps est la matière à laquelle notre conscience s'applique, il est coextensif à notre conscience. Il comprend tout ce que nous percevons. Il va jusqu'aux étoiles. Mais ce corps immense change à tout instant, et parfois radicalement, pour le plus léger déplacement d'une partie de lui-même qui en occupe le centre et qui tient dans un espace minime. Ce corps intérieur et central, relativement invariable, est toujours présent. Il n'est pas seulement présent, il est agissant. C'est par lui et par lui seulement que nous pouvons mouvoir d'autres parties du grand corps. Et comme l'action est ce qui compte, comme il est entendu que nous sommes là où nous agissons, on a coutume d'enfermer la conscience dans le corps minime, de négliger le corps immense. On y paraît d'ailleurs autorisé par la science, laquelle tient à la perception extérieure pour un épiphénomène des processus intracérébraux qui y correspondent. Tout ce qui est perçu du plus grand corps ne serait donc qu'un fantôme projeté au dehors par le plus petit. Nous avons démasqué l'illusion que cette métaphysique renferme. Si la surface de notre très petit corps organisé précisément en vue de l'action immédiate, est le lieu de nos mouvements actuels, notre très grand corps inorganique est le lieu de nos actions éventuelles et théoriquement possibles. Les centres perceptifs du cerveau étant les éclaireurs et les préparateurs de ces actions éventuelles et en dessinant intérieurement le plan, tout se passe comme si nos perceptions extérieures étaient construites par notre cerveau et projetées par lui dans l'espace. Mais la vérité est tout autre, et nous sommes réellement, quoique par des parties de nous-mêmes qui varient sans cesse et où ne siègent que des actions virtuelles, dans tout ce que nous percevons. Prenons les choses de ce biais, et nous ne dirons même plus de notre corps qu'il soit perdu dans l'immensité de l'univers. Il est vrai que lorsqu'on parle de la petitesse de l'homme et de la grandeur de l'univers, c'est à la complication de celui-ci qu'on pense au moins autant qu'à sa dimension. Une personne fait l'effet d'être simple. Le monde matériel est d'une complexité qui défie toute imagination. La plus petite parcelle visible de matière est déjà elle-même un monde. Comment admettre que ceci n'ait d'autre raison d'être que cela? Mais ne nous laissons pas intimider. Quand nous nous trouvons devant des parties dont l'énumération se produit sans fin, ce peut être que le tout est simple et que nous le regardons par le mauvais bout. Portez la main d'un point à un autre. C'est pour vous qui le percevez du dedans un geste indivisible. Mais moi, qui l'aperçois du dehors et qui fixe mon attention sur la ligne parcourue, Je me dis qu'il a fallu d'abord franchir la première moitié de l'intervalle, puis la moitié de l'autre moitié, puis la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite. Je pourrais continuer pendant des milliards de siècles. Jamais je n'aurais épuisé l'énumération des actes dans lesquels se décompose, à mes yeux, le mouvement que vous sentez indivisible. Ainsi, le geste qui suscite l'espèce humaine, ou plus généralement des objets d'amour pour le Créateur, pourrait fort bien exiger des conditions qui en exigent d'autres, lesquelles, de proche en proche, en entraînent une infinité. Impossible de penser à cette multiplicité sans être pris de vertige. Mais elle n'est que l'envers d'un indivisible. Il est vrai que les actes infiniment nombreux en lesquels nous décomposons un geste de la main sont purement virtuels, déterminés nécessairement dans leur virtualité par l'actualité du geste, tandis que les parties constitutives de l'univers et les parties de ces parties sont des réalités. Quand elles sont vivantes, elles ont une spontanéité qui peut aller jusqu'à l'activité libre. Aussi, ne prétendons-nous pas que le rapport du complexe au simple soit le même dans les deux cas. Nous avons seulement voulu montrer par ce rapprochement que la complication, même sans borne, n'est pas signe d'importance et qu'une existence simple peut exiger des conditions dont la chaîne est sans fin. Telle sera notre conclusion. Attribuant une telle place à l'homme et une telle signification à la vie, elle paraîtra bien optimiste. Tout de suite surgira le tableau des souffrances qui couvre le domaine de la vie, depuis le plus bas degré de la conscience jusqu'à l'homme. En vain, nous ferions observer que dans la série animale, cette souffrance est loin d'être ce que l'on pense. Sans aller jusqu'à la théorie cartésienne des bêtes-machines, on peut présumer que la douleur est singulièrement réduite chez des êtres qui n'ont pas une mémoire active, qui ne prolongent pas leur passé dans leur présent et qui ne sont pas complètement des personnes. Leur conscience est de nature somnambulique. Ni leur plaisir ni leur douleur n'ont les résonances profondes et durables des nôtres. Comptons-nous comme des douleurs réelles, celles que nous avons éprouvées en rêve. Chez l'homme lui-même, la souffrance physique n'est-elle pas due bien souvent à l'imprudence et à l'imprévoyance, ou à des goûts trop raffinés, ou à des besoins artificiels? Quant à la souffrance morale, elle est au moins aussi souvent amenée par notre faute. Et de toute manière, elle ne serait pas aussi aiguë si nous n'avions surexcité notre sensibilité au point de la rendre morbide. Notre douleur est indéfiniment prolongée et multipliée par la réflexion que nous faisons sur elle. Bref, il serait aisé d'ajouter quelques paragraphes à la Théodicée de Leibniz, mais nous n'en avons aucune envie. Le philosophe peut se plaire à des spéculations de ce genre dans la solitude de son cabinet. Qu'en pensera-t-il devant une mère qui vient de voir mourir son enfant? Non, la souffrance est une terrible réalité, et c'est un optimisme insoutenable que celui qui définit a priori le mal, même réduit à ce qu'il est effectivement, comme un moindre bien. Mais il y a un optimisme empirique, qui consiste simplement à constater deux faits. D'abord, que l'humanité juge la vie bonne dans son ensemble, puisqu'elle y tient. Ensuite, qu'il existe une joie sans mélange, située par-delà le plaisir et la peine, qui est l'état d'âme définitif du mystique. Dans ce double sens, et de ce double point de vue, l'optimisme s'impose, sans que le philosophe ait à plaider la cause de Dieu. Dira-t-on que si la vie est bonne dans son ensemble, elle eût néanmoins été meilleure sans la souffrance, et que la souffrance n'a pas pu être voulue par un Dieu d'amour. Mais rien ne prouve que la souffrance ait été voulue. Nous exposions que ce qui apparaît d'un côté comme une immense multiplicité de choses, au nombre desquelles est en effet la souffrance, peut se présenter d'autre part comme un acte indivisible, de sorte qu'éliminer une partie serait supprimer le tout. On alléguera que le tout eût pu être différent et tel que la douleur n'en eût pas fait partie. Que par conséquent, la vie, même si elle est bonne, eût pu être meilleure. D'où l'on conclura que s'il y a réellement un principe, et si ce principe est amour, il ne peut pas tout, il n'est donc pas Dieu. Mais là est précisément la question. Que signifie au juste la toute-puissance? Nous montrions que l'idée de rien est quelque chose comme l'idée d'un carré rond, qu'elle s'évanouit à l'analyse pour ne laisser derrière elle qu'un mot, enfin que c'est une pseudo-idée. N'en serait-il pas de même de l'idée de tout? Si l'on prétend désigner par ce mot non seulement l'ensemble du réel, mais encore l'ensemble du possible. Je me représente quelque chose, à la rigueur, quand on me parle de la totalité de l'existant. Mais dans la totalité de l'inexistant, je ne vois qu'un assemblage de mots. C'est donc encore d'une pseudo-idée, d'une entité verbale, qu'on tire ici une objection. Mais on peut aller plus loin. L'objection se rattache à toute une série d'arguments qui impliquent un vice radical de méthode. On construit, a priori, une certaine représentation. On convient de dire que c'est l'idée de Dieu. On en déduit alors les caractères que le monde devrait présenter et, si le monde ne les présente pas, on en conclut que Dieu est inexistant. Comment ne pas voir que, si la philosophie est œuvre d'expérience et de raisonnement, elle doit suivre la méthode inverse. Interroger l'expérience sur ce qu'elle peut nous apprendre d'un être transcendant à la réalité sensible comme à la conscience humaine et déterminer alors la nature de Dieu en raisonnant sur ce que l'expérience lui aura dit. La nature de Dieu apparaîtra ainsi dans les raisons mêmes qu'on aura de croire à son existence. On renoncera à déduire son existence ou sa non-existence d'une conception arbitraire de sa nature. Qu'on se mette d'accord sur ce point et l'on pourra, sans inconvénient, parler de la toute-puissance divine. Nous trouvons des expressions de ce genre chez les mystiques auxquels nous nous adressons précisément pour l'expérience du divin. Il est évident qu'ils entendent par là une énergie sans borne assignable, une puissance de créer et d'aimer qui passe toute imagination. Ils n'évoquent certainement pas un concept clos, encore moins une définition de Dieu qui permettrait de conclure à ce qu'est ou devrait être le monde. La même méthode s'applique à tous les problèmes de l'au-delà. On peut, avec Platon, poser a priori une définition de l'âme qui la fait indécomposable parce qu'elle est simple, incorruptible parce qu'elle est indivisible, immortelle en vertu de son essence. De là, on passera par voie de déduction à l'idée d'une chute des âmes dans le temps, puis à celle d'une rentrée dans l'éternité. Que répondre à celui qui contestera l'existence de l'âme ainsi définie? Et comment les problèmes relatifs à une âme réelle, à son origine réelle, à sa destinée réelle, pourraient-ils être résolus selon la réalité ou même posés en termes de réalité alors qu'on a simplement spéculer sur une conception, peut-être vide de l'esprit, ou, en mettant les choses au mieux, préciser conventionnellement le sens du mot que la société a inscrit sur une découpure du réel, pratiquée pour la commodité de la conversation. Aussi, l'affirmation reste-t-elle stérile autant que la définition était arbitraire. La conception platonicienne n'a pas fait avancer d'un pas notre connaissance de l'âme, malgré 2000 ans de méditation sur elle. Elle était définitive comme celle du triangle, et pour les mêmes raisons. Comment, pourtant, ne pas voir que s'il y a effectivement un problème de l'âme, c'est en termes d'expérience qu'il devra être posé, en termes d'expérience qu'il sera progressivement et toujours partiellement résolu. Nous ne reviendrons pas sur un sujet que nous avons traité ailleurs. Rappelons seulement que l'observation par les sens et par la conscience des faits normaux et des états morbides nous révèle l'insuffisance des explications physiologiques de la mémoire, l'impossibilité d'attribuer la conservation des souvenirs au cerveau, et d'autre part, la possibilité de suivre à la trace les dilatations successives de la mémoire, depuis le point où elle se resserre, pour ne livrer que ce qui est strictement nécessaire à l'action présente, jusqu'au plan extrême où elle étale tout entier l'indestructible passé. Nous disions métaphoriquement que nous allions ainsi du sommet à la base du cône. Par sa pointe seulement, le cône s'insère dans la matière. Dès que nous quittons la pointe, nous entrons dans un nouveau domaine. Quel est-il ? Disons que c'est l'esprit. Parlons encore, si vous voulez, d'une âme. Mais en réformant alors l'opération du langage, en mettant sous le mot un ensemble d'expériences et non pas une définition arbitraire. De cet approfondissement expérimental, nous conclurons à la possibilité et même à la probabilité d'une survivance de l'âme, puisque nous aurons observé, et comme touché du doigt, dès ici-bas, quelque chose de son indépendance par rapport au corps. Ce ne sera qu'un des aspects de cette indépendance. Nous serons bien complètement renseignés sur les conditions de la survie, et en particulier sur sa durée. Est-ce pour un temps? Est-ce pour toujours? Nous serons bien incomplètement renseignés sur les conditions de la survie, et en particulier sur sa durée. Est-ce pour un temps? Est-ce pour toujours? Mais nous aurons du moins trouvé un point sur lequel l'expérience a prise, et une affirmation indiscutable deviendra possible, comme aussi un progrès éventuel de notre connaissance. Voilà pour ce que nous appellerions l'expérience d'en bas. Transportons-nous alors en haut. Nous aurons une expérience d'un autre genre, l'intuition mystique. Ce serait une participation de l'essence divine. Maintenant, ces deux expériences se rejoignent-elles? La survie qui semble assurée à toutes les âmes par le fait que, dès ici-bas, une bonne partie de leur activité est indépendante du corps, se confond-elle avec celle où viennent, dès ici-bas, s'insérer des âmes privilégiées? Seule une prolongation et un approfondissement des deux expériences nous l'apprendront. Le problème doit rester ouvert. Mais c'est quelque chose que d'avoir obtenu sur des points essentiels un résultat d'une probabilité capable de se transformer en certitude. Et pour le reste, pour la connaissance de l'âme et de sa destinée, la possibilité d'un progrès sans fin. Il est vrai que cette solution ne satisfera d'abord ni l'une ni l'autre des deux écoles qui se livrent un combat autour de la définition a priori de l'âme, affirmant ou niant catégoriquement. Ceux qui nient, parce qu'ils refusent d'ériger en réalité une construction peut-être vide de l'esprit, persisteront dans leur négation, en présence même de l'expérience qu'on leur apporte, croyant qu'il s'agit encore de la même chose. Ceux qui affirment n'auront que du dédain pour des idées qui se déclarent elles-mêmes provisoires et perfectibles. Ils n'y verront que leur propre thèse, diminuée et appauvrie. Ils mettront du temps à comprendre que leur thèse avait été extraite telle quelle du langage courant. La société suit sans doute certaines suggestions de l'expérience intérieure quand elle parle de l'âme. Mais elle a forgé ce mot comme tous les autres pour sa seule commodité. Elle a désigné par là quelque chose qui tranche sur le corps. Plus la distinction sera radicale, mieux le mot répondra à sa destination. Or, elle ne saurait être plus radicale que si l'on fait des propriétés de l'âme, purement et simplement, des négations de celles de la matière. Telle est l'idée que le philosophe a trop souvent reçue toute faite de la société par l'intermédiaire du langage. Elle paraît représenter la spiritualité la plus complète, justement parce qu'elle va jusqu'au bout de quelque chose. Mais ce quelque chose n'est que de la négation. On ne tire rien du vide, et la connaissance d'une telle âme est naturellement incapable de progrès. Sans compter que l'idée sonne creux dès qu'une philosophie antagoniste frappe sur elle. Combien ne vaudrait-il pas mieux se reporter aux vagues suggestions de la conscience d'où l'on était parti, les approfondir, les conduire jusqu'à l'intuition claire. Telle est la méthode que nous préconisons. Encore une fois, elle ne plaira ni aux uns ni aux autres. On risque à l'appliquer d'être pris entre l'arbre et l'écorce. Mais peu importe, l'écorce sautera si le vieil arbre se gonfle sous une nouvelle poussée de sève.